Christelle Balier.
Nouvelle heure de l'actualité sur Radio de la Paix. Bonjour et bienvenue à tous. En titre de cette édition, le Premier ministre ivoirien qui procédait le 24 mars dernier au lancement des travaux du lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers agricoles à Botro a appelé à l'union et à la cohésion des cadres pour le développement de la région. Et puis la Côte d'Ivoire en termes d'électrification nationale a un taux de couverture rurale à 80% selon le directeur de l'énergie Cissé Sabati qui reviendra dans cette édition sur les axes stratégiques de développement de la politique énergétique de notre pays. Dans l'actualité internationale, le Burkina Faso suspend la diffusion de la chaîne internationale France 24, décision que la chaîne déplore vivement. Et puis, en fin de ce journal, vous suivrez l'invité de la rédaction, Dr Gaoussou Karamoko, directeur général de la diaspora, en compagnie de Soro Adams. Il se prononcera sur les violences racistes et xénophobes en Tunisie contre les Noirs de l'Afrique subsaharienne, dont les Ivoiriens. C'est en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Cérémonie de pose de première pierre du lycée professionnel sectoriel aux métiers agricoles de Botro dans la région du Bekè. À cette occasion, le Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Kachi a interpellé les cadres de la région quant à leur responsabilité à s'unir et à s'entendre pour impulser le développement local. C'était le vendredi 24 mars dernier. Le reportage est signé Joseph Assalé, notre correspondant dans le Bekè.
Tout peuple aspire au développement et au bien-être selon le Premier ministre qui invite donc les cadres de la région de Bekè en général et ceux du département de Botro en particulier à transcender leurs divergences. Jérôme Patrick Hachi.
Entendez-vous, pour le bien de vos populations, ne ratez pas le train parce que les autres régions ne vous attendront pas et ceux qui n'auront pas eu l'audace de voir suffisamment tôt seront en retard. Ne vous plaignez pas. Rien n'aura été fait qu'on dira que ce sont juste des litanies et du verbiage cru.
Il souligne que la seule bataille qui mérite d'être menée est l'amélioration des conditions de vie des populations.
À la fin, c'est sous cette terre que nous serons tous. Les seules choses qui resteront du passage de ceux qui ont choisi pour leur vie de faire de la politique, ce sont les œuvres qu'ils auront laissées derrière eux. Et ce sont ces œuvres qui parleront pour eux et qui garderont dans les mémoires de génération en génération de leur population leur nom.
C'est aussi ce que pense le porte-parole des populations de la ville de Diabo, qui l'a fait savoir à l'occasion de la pose de la première pierre du lycée professionnel technique multisectoriel de la localité, le 24 mars 2023, à Saoré, Kona, Jacques.
La politique ne vaut que par le bien-être qu'on procure à nos parents.
Il exhorte par ailleurs les populations à soutenir les autorités dans leur volonté de lutte contre la pauvreté. Joseph Assalé, Botro, Radio de la Paix.
Parlons de lutte contre l'extrémisme violent. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays d'Afrique de l'Ouest bénéficiaires du plan stratégique de prévention des conflits et de la stabilité mis en œuvre par les États-Unis sous l'impulsion du président Joe Biden. Ce plan, qui sera exécuté pendant 10 années, permettra de renforcer la sécurité, la démocratie et la cohésion communautaire. 3 hauts fonctionnaires du département d'État américain ont été reçus le vendredi dernier par Madame l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Bah. Il a été question de présenter ce plan décennal de mise en œuvre de cette stratégie américaine. Le reportage de Ghislain Koulibaly.
Michael Heath, Greg Lodiafo, Toby Bradley, ces 3 hauts fonctionnaires du département d'État américain sont en mission pour expliquer les axes clés de cette stratégie. Michael Heath, du Bureau des Affaires africaines.
Nous devons également voir les soutiens à apporter à court terme au niveau sécuritaire. Nous devons aussi tenir compte des problèmes tels que la pauvreté, les opportunités économiques pour les jeunes, l'expansion des services publics et gouvernementaux, même dans les zones les plus reculées du Nord. Cela inclut les prestations de santé, l'éducation et le dialogue intercommunautaire.
Ce travail se fera conjointement entre l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement américain. Jessica Davis-Bah, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire.
Le plan de mise en œuvre sera créé en partenariat avec le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire. Le plan identifie les investissements dans des partenariats à tous les niveaux et soutient les initiatives menées par l'Afrique, ce qui élève les approches bilatérales et régionales pour prévenir la violence et faire progresser la sécurité. Cette visite de trois hauts fonctionnaires pour se concentrer sur l'état de droit, la justice, la sécurité est le début de notre mise en œuvre de ce plan.
Dans cet élan, la Côte d'Ivoire prendra part au deuxième sommet mondial pour la démocratie les 29 et 30 mars 2023 à Washington DC.
Recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la fonction publique en 2022. Tous les 200 postes budgétaires prévus ont été pourvus selon le porte-parole du gouvernement qui a annoncé par ailleurs lors du Conseil des ministres du 22 mars dernier qu'une autre session est prévue pour cette année 2023. Comment réagissent les organisations des droits des personnes handicapées par rapport à ce recrutement spécial dans les services publics? Écoutons à ce propos l'avis de Souleymane Koulibaly. Il est président de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire et il répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Depuis 2018, le recrutement dérogatoire est reconduit de façon continue. Les personnes handicapées qui étaient obligées de faire des marches, des grèves, des sit-ins par-ci et par-là ne sont plus obligées de le faire. Le gouvernement prend sur lui-même de nous éviter tout ça. En tout cas, je ne peux que leur dire merci pour tout.
Alors, est-ce que vous avez un plaidoyer à faire justement par rapport au nombre et aux conditions même de travail de ces personnes handicapées dans les services publics?
Oui, nous plaidons pour que le nombre de places à pourvoir soit revu à la hausse. Aussi, nous plaidons pour que l'avancement des personnes handicapées qui sont recrutées, en tout cas, soit aussi une réalité. Il faut que les personnes handicapées puissent avoir aussi des promotions. On souhaite aussi vraiment que l'environnement de travail vraiment leur soit adapté.
Souleymane Koulibaly, président de la Confédération des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Électrification rurale, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à plus de 80% de couverture selon le directeur général de l'énergie, Cissé Sabati. Il a confié cette information au cours de la clôture du forum d'investissement pour l'accès à l'énergie le 23 mars dernier, organisé par l'Alliance pour l'électrification rurale en partenariat avec l'ABAD et le Fonds pour l'énergie durable en Afrique. Cette 8e édition a été l'occasion pour les autorités ivoiriennes de revenir sur l'environnement énergétique. Le directeur général de l'énergie, Cissé Sabati, revient donc ici sur la politique énergétique ivoirienne dans des propos recueillis par Didier Blé.
Nous disposons d'une politique énergétique qui évolue autour de 4 axes stratégiques de développement. Il y a un axe qui concerne la sécurité et la fiabilité de l'alimentation en électricité. Ça, c'est l'axe 1. Il y a le second axe qui concerne l'accès à l'électricité, c'est-à-dire améliorer l'accès à l'électricité. Le troisième axe porte sur la prise en compte des préoccupations environnementales. Et puis le dernier axe porte sur notre rôle dans la sous-région au niveau donc des interconnexions. Quand on regarde donc les 4 axes, on voit que ce forum touche 2 des axes donc de nos politiques énergétiques. La Côte d'Ivoire a mis en place 3-4 outils pour booster le taux d'accès à l'électricité. Il y a le programme national d'électrification rurale qui permet donc de électrifier nos localités. Il y a le programme d'extension des réseaux qui prend les périphéries des villes. Il y a le programme électrification hors réseau qui porte sur les zones qui sont très éloignées du réseau interconnecté.
Nous écoutions à l'instant le directeur général de l'énergie, Cissé Sabati, et puis le conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole des acteurs de la filière mangue de Côte d'Ivoire, élargie au collège des producteurs, commerçants et des transformateurs, se sont concertés le 23 mars dernier dans un réceptif hôtelier de la cité du Poro. À l'occasion de cette rencontre entre les acteurs de la filière, plusieurs annonces ont été faites, notamment celle relative à l'ouverture de la campagne 2023 du prix de la caisse Borchamps et au prix du kilogramme de la mangue. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
Pour cette campagne de manque 2023, nous avons décidé que le prix fixé à l'usine serait de 200 francs le kilo et que le prix bord champ de la caisse de manque de 20 kilos serait de 2400 francs. La date d'ouverture pour cette campagne de manque a été décidée d'un commun accord avec les producteurs et les commerçants à la date du 5 avril 2023.
Cette annonce de Pascal Nambélé-Sinisilué, président de l'Intermangue, fait suite à un aspect essentiel soulevé par Flora Assine, déléguée de l'Intermangue, qui doit être de mise pour cette campagne 2023.
Au niveau de la production, si on améliore les rendements, on pourra avoir un prix d'achat qui sera plus compétitif, mais qui, du fait de l'amélioration des rendements, permettra aux producteurs de rentrer plus d'argent et de travailler la qualité. Parce qu'on a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir une mangue qui est très bonne, et je pense qu'on ne doit pas avoir peur de la concurrence. C'est qu'on doit s'équiper pour affronter la concurrence et prendre des parts de marché, même s'ils sont présents.
Dans cette optique, elle a ajouté.
On espère que le travail va être fait au niveau du champ, parce que c'est là où tout commence, parce que si les vergers sont bien traités et qu'il y a une véritable lutte contre la mouche du fruit, mais en respectant également tout ce qui est règles sanitaires, c'est-à-dire le ramassage, l'entretien des vergers, ça va permettre de nous sécuriser. Il y a une visite qui est prévue de l'Union européenne pour s'assurer que nos vergers sont bien entretenus, et on voudrait que cette visite sorte un succès pour la Côte d'Ivoire et qu'on soit toujours présent sur le marché européen.
Une présence sur le marché européen qui requiert aussi un renforcement des capacités des producteurs sur les bonnes pratiques et la gestion d'une exploitation agricole. Marcel Bonnet, Korogo, Radio de la Paix.
Un mot de culture dans cette édition. Les lobbies originaires de Bouna, résidant dans le département de Dabakala, ont célébré l'unité des peuples, du peuple lobby et la cohésion sociale avec les Djimini et les Tabanans à travers le festival dénommé Sifoka. Cette troisième édition s'est déroulée du 17 au 19 mars dernier à Dabakala Ville sous le thème Ma culture, ma liberté. Jérôme Kwasi de Bouna a été le témoin de cet événement pour Radio de la Paix.
Ce festival annuel Sifoka se veut un creuset de paix et de cohésion sociale à travers la promotion des danses traditionnelles, selon Yassi Yassine, professeur en psychopédagogie, président du comité d'organisation.
Sifoka déjà, qui veut dire unissons-nous. Donc à travers les danses, le bir, le wereng, que d'autres appellent le yoro, le bourg, le noner et le bumbo, nous voulons cultiver la paix, l'union, l'entente et la cohésion.
Une initiative qui, dupliquée, pourra permettre à ceux de la diaspora lobby de conserver des traits culturels. Malessier Amadou, inspecteur divisionnaire à la Direction générale des impôts, parrain de cette édition.
Pour en tirer des enseignements et puis aller proposer ça aux parents de la diaspora, les communautés lobby dans toutes les autres régions de Côte d'Ivoire, les amener à retrouver leur culture et puis à garder un lien avec leur région d'origine.
Les lobbies s'intègrent facilement aux communautés qui les accueillent. Yann Mémen Martine, surveillante générale des hôpitaux de Côte d'Ivoire.
Le lobby, c'est un homme qui est pour la paix. Il sait qu'il n'est pas sur un territoire qui lui appartient. Donc, il marche selon les règles du territoire où il est arrivé.
Sur les 224 villages que compte le département de Dabakala, il y a au moins 200 villages où vivent les lobbies en parfaite harmonie avec leurs tuteurs, les Djimini et les Tabanans. Yann Ben Saré, chef de la communauté lobby de Bouna au nom du roi du Bunkani, représentait la délégation venue de Bouna. Jérôme Kwasi de Bouna, de retour de Dabakala pour la Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, ce 27 mars 2023, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la suspension sine die de la diffusion des programmes de la chaîne internationale France 24 sur l'ensemble du territoire national. Les autorités burkinabées invoquent une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui aurait été diffusée sur les antennes du média français. Ce dernier, en retour, déplore vivement cette décision de Ouagadougou et conteste les accusations sans fondement qui mettent en cause le professionnalisme de la chaîne. Fin de citation. France 24 rappelle que jamais la chaîne n'a donné la parole directement au chef d'ACMI. Nous en arrivons à cette dernière articulation de notre journal. L'invité de la rédaction de ce lundi est Dr Gaoussou Karamoko, directeur général de la diaspora au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Avec lui, il va être question du dossier des violences racistes et xénophobes en Tunisie, dirigé contre les Noirs de l'Afrique subsaharienne, dont les Ivoiriens. Combien d'Ivoiriens vivant en Tunisie ont pu être rapatriés en Côte d'Ivoire à ce jour et combien reste-t-il à ramener au pays? Dr Gaoussou Karamoko répond aux questions de Soro Adams dans cet entretien à suivre maintenant.
Bonjour, monsieur le directeur général Gaoussou Karamoko.
Bonjour, monsieur Soro.
Quel point faites-vous en ce qui concerne le dossier des Ivoiriens en Tunisie?
Le point qu'on peut faire, c'est de dire qu'aujourd'hui, après la première vague de retour volontaire, nous avons 766 personnes qui ont pu regagner la Côte d'Ivoire en toute sécurité et qui ont été pris en charge dès leur arrivée par l'État de Côte d'Ivoire via les structures techniques dédiées à leur prise en charge, notamment le ministère de l'Intérieur, la question de sécurité, la question d'authentification d'identité, les questions de sûreté, mais aussi d'autres structures, notamment le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, pour la prise en charge des enfants et des bébés qui étaient dans le lot. On avait par exemple 45 bébés de moins de 2 ans. D'autres structures, notamment le ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique, qui aussi fait un travail d'accompagnement réel avec des projets qui sont mis à disposition de la jeunesse, conformément à la grande conception cette année, Côte d'Ivoire, l'année de la jeunesse 2023. Donc, pour ce retour, au total, 766 personnes qui sont rentrées de Tunisie et qui sont dignement installées chez eux, dans leur famille.
Et combien sont attendus dans les jours à venir? Y a-t-il beaucoup d'inscrits?
On va avoir le début de la seconde vague. Ça va commencer le 23 mars 2023. Le premier vol pour la seconde phase, qui va faire à peu près plus de 1072 personnes. Il va avoir donc 4 rotations de gros porteurs, 23, 25, 27 et 29 de ce mois de mars. Chaque porteur pourra avoir en son sein 268, ça c'est le chiffre pour être précis. Donc 268 personnes en tant que passagers, mais peut-être un peu plus avec les bébés qui peuvent accompagner. Au total, plus de 1072 personnes pour la seconde vague de retour volontaire en Côte d'Ivoire.
Monsieur le directeur général Gansou Karamoko, combien d'Ivoiriens sont recensés aujourd'hui en Tunisie?
Au début, c'était plus précis, les chiffres étaient plus stables. Mais aujourd'hui, on ne peut pas donner de chiffres réels parce que, comme vous le savez, la situation interne a un peu évolué. Et donc, les inscrits d'hier ne sont pas forcément les inscrits d'aujourd'hui. On ne peut pas mettre l'accent sur les inscrits en tant que tels. Par contre, on peut indiquer en toute sérénité et objectivité que 766 sont entrés et que plus de 1112 vont rentrer à ça, c'est des certitudes. Maintenant, les inscrits, c'est un peu plus difficile maintenant à le dire parce que c'est un peu fluctuant quand même.
Mais combien d'Ivoiriens étaient recensés en Tunisie avant l'éclatement de cette crise?
Officiellement, on a plus de 6500 Ivoiriens inscrits à l'ambassade, hein, qui sont dans une situation reconnue par l'ambassade, donc 6500 personnes. Mais on sait que si on prend en compte tous ceux qui sont en situation d'irrégularité, c'est sûr que ce chiffre est un peu en deçà de la réalité. Mais les chiffres que nous avons à l'ambassade, c'est 6500 personnes. Ce qui est différent du chiffre d'inscrits pour le retour volontaire. Parce que c'est deux chiffres différents. 6500 inscrits sur les fichiers de l'ambassade, c'est ce qui est reconnu. Mais évidemment, pour le retour volontaire, vous verrez certainement des gens qui ne sont pas inscrits forcément à l'ambassade, mais qui figurent sur les listes de retour au pays, vu que c'est une situation de crise et que chacun devait pouvoir trouver une solution.
Mais ces 6500 reconnus, enregistrés et reconnus à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, quel est leur travail exactement?
Or, c'est comme je le dis, hein, la Tunisie, c'est plusieurs tableaux à la fois. Certains sont dans des situations de régularité, donc des étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Tunisie octroie des bourses d'études à la Côte d'Ivoire et à d'autres pays africains. Donc vous avez des étudiants africains, précisément ivoiriens, qui sont en Tunisie, donc qui font des études. Vous avez aussi en Tunisie ce qu'on appelle le tourisme médical. Beaucoup y vont parce qu'il y a une réputation de ce pays en matière de soins de santé. Et donc, vous trouvez beaucoup de malades, de personnes qui ne se portent pas bien, qui vont vers la Tunisie pour se soigner. Vous avez aussi, quoi qu'on dise, des gens qui ont une existence légale, même si c'est très minime, une existence légale, et donc qui travaillent dans des structures avec une forme de reconnaissance de l'État tunisien. Mais j'avoue que c'est un nombre assez minime. Et puis, vous avez toute la grande masse de migrants qui essaient de transiter par la Tunisie pour regagner l'Europe, donc qui constituent le gros lot de nos compatriotes dans ce pays. Mais en général, ils font juste des petits métiers, je ne dirais pas métiers. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ils essaient de se débrouiller dans quelques activités. On entend souvent parler d'aide-maçons, de petites menuiseries, travailler dans quelques restaurants pour subvenir à leurs besoins. C'est vraiment de la subsistance, tenir le coup, le temps d'avoir la possibilité de traverser. Et donc, c'est vraiment des gens qui sont dans des milieux non seulement assez clandestins parce qu'ils ne sont pas reconnus, mais aussi parce que bon, il faut qu'ils se débrouillent le temps d'avoir des possibilités ailleurs.
Je vous remercie, monsieur le directeur général Gaoussou Karamoko.
Merci, monsieur Soro, à bientôt.
Docteur Gaoussou Karamoko, directeur général de la diaspora au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Il était l'invité de la rédaction et il répondait aux questions de Soro Adams. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Le premier ministre ivoirien qui procédait le 24 mars dernier au lancement des travaux du lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers agricoles à Botro a appelé à l'union et à la cohésion des cadres pour le développement de la région. Et puis la Côte d'Ivoire en termes d'électrification nationale a un taux de couverture rurale à 80% selon le directeur de l'énergie Cissé Sabati qui revenait dans cette édition sur les axes stratégiques de développement de la politique énergétique de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, le Burkina Faso a suspendu aujourd'hui la diffusion de la chaîne française France 24, décision que la chaîne déplore vivement. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette édition. Retrouvez tout de suite Aoussi Potin pour la revue de presse.